7h30 minutes, hier, j'ai fait une entrevue avec Pierre. Pierre est un ex-néo-nazi, un ancien skinhead, 53 ans aujourd'hui. Et donc, il était dans la mouvance de ces groupes racistes dans les années 80 et 90. Il vient de sortir de prison, il est en maison de transition. Et disons qu'il est dans un autre état d'esprit maintenant. Après avoir été antisémite, raciste et d'avoir posé des gestes extrêmement violents, il est en quelque sorte un repenti. Donc, je l'ai interviewé hier et la première question que je lui ai posée, comment cette idéologie raciste vous a perturbé? À quel point ça a été grave pour vous? Puis surtout, comment ça a commencé?
J'étais sur le bord d'être majeur, j'avais 16-17 ans. Comment je pourrais expliquer? Moi, j'étais plutôt... J'avais un de mes chums qui faisait partie du mouvement skin. Puis je le suivais pas mal partout. Puis je pense qu'en quelque part, j'étais à la recherche d'une famille, fait que j'ai adhéré à ça. Je suis rentré les deux pieds là-dedans sans vraiment être raciste ou homophobe. C'est les circonstances ont fait avec le temps, puis avec les frictions avec des Noirs, avec des homosexuels, puis que je suis devenu raciste puis homophobe.
OK, mais avant, vous n'aviez pas eu de problème avec les homosexuels, de problème avec les Noirs.
Non.
C'est l'influence de quelqu'un qui était un raciste convaincu qui vous a amené vers ça.
Oui. Tu grandis puis t'évolues avec du monde de même qui ont juste tout le même discours. À un moment donné, ce discours-là s'imprègne dans toi. Puis à un moment donné, ben je suis devenu moi-même un agent de radicalisation. Puis j'ai moi-même fait du recrutement, tu sais. Fait que j'ai fini par croire ce qu'on m'a rentré dans la caboche. Puis j'essayais de le faire croire au monde aussi, là.
Qu'est-ce qu'on vous a mis dans la caboche, comme vous dites? Qu'est-ce qu'on vous racontait? Puis qu'est-ce qu'on vous, je sais pas, donnait comme discours?
Que nous autres, c'est nous autres qui avions la vraie solution, puis la solution se donnait par la violence. Le monde qui devienne homosexuel ou qui sont homosexuels ou peu importe, c'est du monde faible pour la race blanche. On a déjà eu beaucoup d'altercations avec des Blancs qui étaient exemple avec des femmes noires. Nous autres, ça passait pas dans notre livre, là. Fait qu'eux autres, ils vivaient la violence, eux autres, avec, là. Puis pour nous autres, c'était du monde qui affaiblissait notre race aussi, là. On se voyait comme les protecteurs de la race blanche. Dans le fond, on n'était pas les protecteurs de personne.
Mais est-ce que, je sais pas, moi, chez vous, ils avaient un drapeau néo-nazi? Est-ce que vous avez lu Mein Kampf d'Adolf Hitler?
Non.
Est-ce que vous avez tombé dans la propagande? Puis...
Avec le temps, oui. J'ai fini par croire à ce qui est incroyable. Puis moi, j'ai fini par y croire.
Mais quand on dit la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, les millions de morts chez les Juifs, c'était quoi votre réaction devant ça?
Malheureusement, j'aime pas répondre à ça, mais je vais y répondre pareil. Mmh. Nous autres, on disait que c'était juste ce qui s'est passé.
C'était juste?
Oui, c'était juste. Pour nous autres, ça l'était. La réalité est tout autre, là.
Non, je comprends.
Mais quelqu'un qui est radicalisé de l'extrême droite, puis qui croit vraiment en ça, il va juste dire que c'était correct.
Et ça vous occupait de quelle façon? Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, j'ai compris que là, on allait dans le village, puis on allait tabasser des gays, on pouvait s'en prendre à des Noirs, mais c'était une occupation comme un loisir ou c'était une mission que vous aviez?
Ben ouais, c'est plutôt une mission. On se voyait, tu sais, je vous ai dit, on se voyait comme des guerriers, nous autres, là. C'est pour nous autres, on protégeait la race blanche. Fait qu'on avait une mission, on s'était créé un code d'éthique. Puis
un code d'éthique?
Oui, oui. Tu sais, je vais taire le groupe auquel j'appartenais, mais nous autres, on voulait pas s'attaquer aux femmes, on voulait pas s'attaquer aux enfants. Nous autres, on voulait s'attaquer aux jeunes hommes qui allaient contre la doctrine néo-nazie. Fait qu'en quelque part, puis on pouvait être sans pitié, là. Tu sais, on s'arrangeait toujours pour être supérieur en nombre quand on allait dans des endroits X, propager la violence. En gros, c'était un peu ça, notre code d'éthique. On se voyait vraiment comme des soldats. Donc, pour nous autres, la personne qui était en face de nous autres, il faisait partie du camp ennemi, puis il fallait qu'on l'écrase.
Fait que tabasser quelqu'un, lui casser une jambe, pas de remords, pas de regrets.
Malheureusement, non.
Vous avez fait ça souvent?
Oui. À plusieurs reprises, plusieurs reprises.
Puis à part ces séances de chasse, là, si on veut, est-ce qu'il y avait d'autres activités avec... de recrutement, je sais pas moi, des soirées.
Dans les années 90, j'ai déjà assisté à des regroupements néo-nazis. le monde se partageait les infos. Puis c'était un peu de même que le recrutement se faisait souvent, là, parce que souvent, on emmenait des nouveaux avec nous autres qui n'étaient pas encore vraiment reçus Skinhead comme tel. Puis ils s'en venaient avec nous. Puis éventuellement, à un moment donné, il fallait qu'ils passent aux choses sérieuses. Puis les choses sérieuses, ben ils se passaient dans la rue.
Tabasser des gens.
Oui.
Est-ce que ça pouvait aller jusqu'au meurtre?
Je suis persuadé que ça a déjà dû il y a déjà dû avoir des événements de même, mais avec nous, non. Ça n'a jamais été jusqu'à là.
Blessé grièvement, mais
oui.
pas des meurtres.
Oui, non.
Mais ça veut dire quoi, grièvement pour vous?
Ben, c'est vraiment blessé, là. Moi, je me souviens d'une situation où c'était deux jeunes noirs, puis ces petits gars-là, j'en parle dans le documentaire, puis ces petits gars-là, ils s'en allaient, je sais pas trop où, c'était il y avait environ mon âge. Nous autres, on était à peu près une douzaine. Puis on les a croisés à un endroit, puis ils ont vraiment eu aucune chance de pouvoir se sauver. Puis ils ont été battus très sauvagement.
OK. Je regardais votre parcours un peu, votre casier judiciaire est assez volumineux, puis une série de crimes. Là, vous avez fait beaucoup de temps en prison, des séjours prolongés, et c'est en prison, dites-vous, que là, vous avez commencé à prendre conscience, je sais pas quoi, à réaliser dans quelle idéologie vous étiez.
Ben, c'est parce que quand on te sort de ton endroit ou de la place où ce que tu t'es à l'aise, puis qu'on te met en milieu carcéral, puis moi, j'ai été identifié comme étant skinhead. Puis je suis tombé dans un pénitencier où il y avait pas mal de Noirs, des Arabes. Disons que j'avais pas grand ami là. Puis les Blancs qui étaient là, eux autres, ils voulaient comme pas trop se mêler de la situation pour pas envenimer la situation ou se mettre dans le trouble eux autres même. Fait que j'ai dû faire face à la musique à une couple de reprises. Puis à un moment donné, on m'a transféré dans un autre pénitencier. Puis c'était un pénitencier où ce que la mentalité était un petit peu différente. Il y avait encore des Noirs, puis des Arabes, puis du monde de différentes nationalités. Pour commencer, on s'est toléré. Puis tranquillement, pas vite, moi, je purgeais une bonne sentence, fait que j'étais là pour un bout. On a commencé à se côtoyer, puis j'ai commencé à apprendre que c'était du monde comme vous et moi, là. Qu'il n'y avait aucune différence. Puis j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais cru durant des années, ben c'était des balivernes.
Il devait être méfiant avec vous quand même.
Là. Oui, tu sais, je dis ça, là, ça a pris du temps. Là. La première fois que j'ai eu un contact direct avec une personne de nationalité différente en dedans des murs, c'était un Arabe, puis il m'a offert un lunch. Pas besoin de vous dire que j'étais pas sûr du lunch. Mais on était ensemble, puis tout venait de la même du même chaudron. Fait que j'ai mangé avec eux autres, puis là, j'ai compris que eux autres, ils passaient par-dessus l'image que je projetais. C'était peut-être une mission qui s'était donnée aussi, là, de rentrer en contact avec moi pour me faire comprendre que sont normaux comme tout le monde. Là.
Êtes-vous inquiet de ce qui se passe actuellement? Puis on peut remonter aux événements de Québec, là, la fusillade à la mosquée, ouais. Mais on voit de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais des actes antisémites contre évidemment la communauté juive. Vous, à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas ces histoires-là, là. On voit comment le recrutement se fait, mais aujourd'hui, c'est facile de trouver ça sur le web.
Oui.
Ça vous inquiète?
Ben oui. Parce que c'est un mouvement que, OK, là, c'est ainsi, sont tranquilles, disons. Mais c'est pas long que ça dépend des individus qui se greffent à ce mouvement-là. Puis que c'est des individus qui sont violents, là, la violence va finir par grimper, puis ça peut pas faire autrement, là. Dans les années 90, ça a été la même chose. On avait un certain potentiel de violence, puis à un moment donné, ça a devenu très, très violent. Fait que, puis on avait peu de moyens de communication entre nous autres. Là, aujourd'hui, là, ça se communique d'un océan à l'autre. Au Québec, là, c'est pas long faire du recrutement, là.
Quelques questions en terminant, là. D'abord, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui doutent de vous, là, qui disent, voyons, on va voir si ce gars-là s'est converti, voir si vraiment il pense ça. On me dit que sur Facebook, il y a des gens là, qui ont mis votre photo, puis que ça circule, puis c'est pas vrai, puis ou encore qui disent que c'est un ennemi maintenant. Qu'est-ce que vous leur dites?
À ceux qui disent que je suis un ennemi, la seule chose que je peux leur dire, c'est que qu'ils changent de bord, puis ils vont voir que les ennemis, c'est pas sur mon bord qu'ils sont.
Mm-hmm.
Puis ceux qui doutent de ma...
Sincérité.
De ma sincérité, ça leur appartient, mais... Ils ont juste à écouter le documentaire. tu sais, pour moi, là, l'extrême droite, là, c'est l'enfer. Je connais pas personne qui va sortir de l'enfer puis qui va vouloir y retourner. Je suis vraiment sorti de ce milieu-là. Puis ce que je veux, c'est mettre de l'énergie pour faire comprendre aux jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'il faut surtout pas aller mettre les pieds dedans.
Puis vous seriez à l'aise d'avoir un ami homosexuel?
Oui.
Vous seriez à l'aise d'avoir un ami qui est musulman?
Oui.
Noir?
Oui. J'ai aucun problème avec ça. Je n'ai eu des années de temps, mais aujourd'hui, non, j'ai aucun problème avec ça.
Puis là, avez-vous encore des logos significatifs sur vous, des tatouages?
Oui, mais c'est un processus qui est long.
Ouais,
j'en ai encore, mais qui vont commencer prochainement, que je vais aller dans une shop, puis que je vais me faire des tatoués. Ben, pas des tatoués, mais des cover-ups.
Masqués, là.
Je suis plein de tatouages. Fait qu'on va faire d'autres choses par-dessus. Parce que c'est très important pour moi que je porte plus ces tatouages-là. Il y a beaucoup de monde, je peux juste vous dire une chose, il y a beaucoup de monde qui savent pas ça, mais sur ma tête, j'ai un rectangle noir. Puis ce rectangle noir-là, là, j'ai fait faire ce rectangle noir-là au Pintancy. Puis avant, là, c'était l'inscription nazie que j'avais sur la tête. Puis j'ai vécu avec ça dehors, puis je l'assumais. Mais quand que je savais que je m'en allais dehors le 14 mai 2018, il était hors de question pour moi que je sorte avec ça. Puis je l'ai fait masquer, puis c'était très important. Puis c'était un de mes meilleurs amis en dedans des murs qui l'a fait. Puis s'il l'aurait pas fait, je me l'aurais brûlé au fer rouge, je pense. Et je pouvais plus me promener dans les rues de Montréal avec une inscription qui me représente plus.
Pierre, merci beaucoup d'être venu ce matin. Alors voilà, c'était Pierre, ancien néo-nazi, 53 ans, skinhead, et qui est maintenant passé complètement de l'autre côté. 7h41.